Bon mardi, Gilles Proulx.
Bonjour, mon cher Jean-Sébastien.
Dur lendemain de tragédie française, tragédie internationale suite à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ça a vraiment secoué le monde au grand complet. Hier, tout le monde a eu une pensée, tout le monde a été ému, peu importe où on se trouvait sur la planète.
C'est très juste, ça ressemblait un petit peu quand il y a eu l'attaque des deux tours à New York, hein, comme secousse là. C'est évident que là, on s'est attaqué à l'histoire. Là-bas, ben, c'était des humains, un système. Mais parmi toutes ces manchettes, puisque tu mentionnes ça, il y a Libération, qui est un journal de gauche, et qui aurait pu, ben, qui s'est souvent moqué du pouvoir, mais sa manchette la plus saisissante, avec Notre-Dame de Paris, 850 ans d'histoire, qui s'écroule, c'est notre drame.
Tellement bien.
Alors,
dit.
L'Église, notre drame. Et je trouvais que c'était bien pensé quand même pour amener le lecteur et le faire plonger dans l'histoire. Hein, on part de Charlemagne en passant par Saint-Louis, qui avait ramené apparemment la couronne du Christ. On n'est pas sûr parce que Saint-Louis a eu l'occasion, mais il est allé à l'époque des missionnaires d'époque, mais on est quand même 1000 ans en arrière de Jésus-Christ. Alors, et puis Napoléon, qui plus tard va restaurer la vocation de cette Église parce que la Révolution a voulu la démolir, en faire un dépotoir. C'est pas possible, les étapes, et comme on l'a très bien dit, elle a vu le temps passer, mais elle a défié le temps. Et De Gaulle aussi à la Libération, alors que les balles sifflaient autour de lui. Et puis j'en passe. Il faut relire Les piliers de l'histoire, que tu as sans doute lu, de Ken Follett. Ça vous donne une idée comment on s'y est pris pour construire ces espèces de trophées à l'humanité. Et durant la Révolution, comme je disais, ça avait servi d'entrepôt, mais heureusement, c'est Napoléon qui va la redonner avec son titre de Grande Dame de Paris. Mm-hmm. Victor Hugo qui l'a immortalisé avec ses écrits. Bref, il est juste de dire qu'elle a défié le temps. On a bien hâte de voir comment Macron va s'y prendre avec les meilleurs ouvriers au monde, dit-il, pour lui redonner sa splendeur.
Et ça survient à un moment de grand bouleversement et de déchirement en France. Le timing, on le décide pas, mais ça survient quand même à un moment particulier là-bas où c'est vraiment compliqué, la France, depuis des mois et des mois, on pourrait même dire des années, il y a des déchirements sociaux qui existent et ça survient à ce moment-là. Puis généralement, c'est le genre de tragédie qui peut souder un pays et qui peut amener un élan de solidarité.
Ça avait l'air de ça hier, évidemment, quand on a eu ces rassemblements de gens qui méditaient puis qui priaient même. Et puis, effectivement, comme tu dis, ce pays-là subit des secousses sismiques de cultures étrangères qui entrent, qui imposent, et en plus des contestations, les gilets jaunes, ça dure depuis, ça ne finit pas, plus toutes les turbulences politiques dont la France se trouve au centre, que ce soit dans ses anciennes colonies notamment. Alors, peut-être que ceci peut ramener, en tout cas, une réflexion plus spirituelle dans la nation.
Un autre sujet, vous vouliez parler de Nathalie Roy, qui ne fait-elle pas preuve de faiblesse par rapport à l'Office de la langue française?
Ben, c'est parce que le rapport de l'Office est sorti 1000 pages, c'est volumineux, puis touche à tous les segments de la vie française au Québec. Et autant nous avions mis notre confiance dans cette ministre au poste de la promotion du français, autant elle est en train de ressembler à n'importe quel ministre peureux, les libéraux étaient des peureux, par exemple, qui marchaient avec les fesses serrées, c'est le cas de dire. Alors, le volumineux rapport démontre quand même notre lâcheté en matière d'affirmation. Je comprends pas son attitude quand on dit qu'on a un office de la protection de la langue qui protège rien du tout. Il y a eu 23% d'entreprises qui se fouent éperdument de la loi d'affichage. Je m'arrête que à l'affichage, là. Ça, c'est à part des 50 employés moins d'un centre commercial où tu vas, des jeunes cégepiennes qui parlent pas français, c'est pas grave, puis le patron t'engueule, toi, comme client à la place. Comme j'ai vu un patron venir dire à un client, « Oui, oui, mais ma serveuse, elle parle chinois. » Alors, ton français, on s'en fout éperdument. Après tout, on vient d'arriver au Québec et on se fout éperdument de toi. Alors, encore une fois, moi, je pense que Mme Roy doit agir. Ça veut démontrer qu'elle est un ministre à part dans ce dossier-là. Et ne pas endurer 23% de gens qui se foutent des lois de l'affichage. Il y a des amendes, il y a un règlement, appliquons-les. Pourquoi avoir un office de la protection si tu ne protèges rien?
Non, puis je sais que c'est une cause qui vous tient à cœur, la langue française. Hier, on avait d'ailleurs en entrevue la ministre de la Francophonie au Canada, Mélanie Joly, qui était avec nous. Puis je lui ai posé la question, en tant que ministre de la Francophonie, Quel niveau elle établissait justement la satisfaction qu'elle avait pour la langue française? Est-ce qu'on maîtrise bien le français au Canada? Et c'est ça. Elle a dit que oui, la langue est parlée, mais est-ce qu'elle est maîtrisée? C'est une autre paire de manches. Puis c'est aussi un autre gros débat de société, ça. Puis ça commence avec les jeunes.
Oui, puis le gouvernement fédéral a une responsabilité puisqu'on est membre de la francophonie. Mm-hmm. Et ça me fait bien rire parce que cette pauvre madame jolie, elle porte bien son titre quand même. Je me rappelle, il n'y avait pas de langue française avec elle, c'est la langue francophone, puis les langues francophones, puis les langues elle s'est corrigée depuis ce temps-là. Ouais. Mais le Canada a un rôle à jouer, puisqu'il y a deux langues officielles, et ne s'aperçoit pas que l'une d'entre elles est drôlement malmenée. C'est l'état officiel, c'est celle qui, en tout cas, est en état de faiblesse. Ils ont un rôle à jouer, les gens du Canada aussi.
Et en terminant, on va revenir sur justement notre question du jour aujourd'hui, le gonflement des notes et le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.
Oui, un bon ministre qui semble très dynamique. Mais comment voulez-vous mettre sur pied une école digne du mot « élévation » dans notre faiblesse, on laisse grimper des élèves qui obtiennent 58%. On passe par-dessus. Non, c'est 60, ça vient de s'éteindre. T'as une rigueur, t'en as pas. On a des professeurs qui sont incapables de passer des tests de français d'écrire correctement. T'as des écoles de congés de toutes sortes. Des journées pédagogiques qui ne rapportent et ne donnent rien à l'élève, qui doivent être révisées pour donner de l'efficacité. Alors, Jean-François Roberge veut envoyer un signal fort. Je suis bien content, mais mettre un terme justement au gonflement des notes. Bravo! Mais combien d'autres avant lui sont embarqués dans cette aventure et on est toujours à la case zéro?
Non, mais on parle souvent dans la santé du gros paquebot du ministère de la Santé, mais il y a aussi le paquebot du ministère de l'Éducation qui est pas plus facile à naviguer.
Tu as bien raison, parce que le budget est grugé par ces deux ministères-là, justement, où à chaque fois qu'il arrive un nouveau règlement, un nouveau gouvernement, ben là, tu as le nouveau ministre avec son tonus qui dit « Nous autres, on va apporter quelque chose, puis de la fraîcheur, puis du nouveau.
Ben » oui.
Mais ça ne vient pas.
Bon, ben on verra. Les intentions sont là, on peut pas leur enlever. Alors, on verra.
Comme le purgatoire.
C'est ça, c'est
rempli de bonnes intentions.
C'est ça, c'est l'application ensuite de ça qu'il faut voir. Merci beaucoup, Gilles.
Voilà, au plaisir.
Une bonne journée, au revoir.